Le titre du message cet après-midi, je veux être très simple. Et je prie, vous savez, plus j'avance avec Dieu, plus je veux être simple. Vraiment. Des fois, on vient me voir, on me parle. Je dis, arrête de réfléchir, pense à Jésus. Le royaume est pour les enfants. Vous savez, avec Romaric, des fois, on passe du temps et notre grand plaisir, notre kiff pastoral, c'est de se dire des mots en grec, en hébreu. Et là, on jubile, c'est la joie. Mais vous savez quoi, tout ça? Ça, c'est des kiffs de pasteur. C'est beau, tout ça. Mais le plus puissant, c'est le Fils de Dieu qui est monté sur une croix et qui a dit « Tout est accompli ». Juste un verset. On peut le lire en hébreu, en grec, en araméen, dans ce que tu veux. Mais ce qu'il a déclaré, ça, c'est puissant. Et vraiment, cet après-midi, j'ai un message très simple pour vous, parce que je crois. Je passe du temps dans ma Bible, et je ne sais pas si... Est-ce que ça vous arrive à vous de lire votre Bible? En fait, j'espère que ça vous arrive souvent. En fait, ça devrait vous arriver tous les jours. Tu lis ta Bible, et tu te dis, il y a tellement de promesses incroyables dans ce livre. Il y a tellement de promesses incroyables dans ce livre, et il y en a tellement que je ne vis pas. Il n'y a que moi ou... Bon, il y en a 4 ou 5. Alors les autres, on va vous donner le micro, vous allez nous donner le secret. Mais vous savez, ça engendre pas de culpabilité, parce qu'il faut pas se regarder et dire « Oh, je vis rien, pauvre de moi, ça sert à rien. » Mais moi, quand je lis tout ça, je me dis « Seigneur, mais tu as tellement encore de choses à me faire découvrir. Je ne suis pas arrivé au bout. Je n'ai pas fait le tour de la question. » Il y a encore tellement de choses que Dieu veut me faire découvrir. Et c'est pour ça que je me dis, mais des fois, est-ce que Seigneur, des fois, le problème ce serait qu'on comprend simplement mal ta parole? Parce que c'est simple. Comment ça se fait qu'un Pierre, qui est, excusez-moi de parler comme ça, mais qui est si souvent dans les choux, vit des choses incroyables avec Dieu? Comment ça se fait que Pierre, qui n'a ni instruction, rien du tout, qui ne sait pas lire l'araméen ou je ne sais pas quoi, là. Lui, il n'est pas là avec nous. Tu vois, si on avait invité Pierre, il n'aurait pas fait les kiffs de mots en grec. Il ne comprenait rien. Il ne savait pas lire, le gars. Et ce qui me touche dans tout ça, c'est je vois ces hommes-là et je vois tout ce qu'ils ont accompli. Je vois combien Dieu s'est servi d'eux, puis combien des gens ont été transformés. Vous imaginez-vous ce gars à la porte du temple qui voyait les gens aller à la prière tous les jours? Moi, j'aime la Bible parce que c'est comme si Dieu nous dit, des fois, arrête d'aller à la prière, occupe-toi des gens qui sont à la porte du temple. Et là, on voit, et moi, je pense à cet homme, je n'ai ni or ni argent. Moi, j'aimerais voir le film là, de ce passage là, quand je serai au ciel. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche, et boum! Et il n'y avait pas Manu à la guitare. Hein. Et pourtant, c'était puissant. Et en fait, tu lis la parole de Dieu, mais c'est, tiens, un gars, Philippe, il se balade dans le désert, il voit un ministre passer, il se dit, tiens, je vais aller lui parler. Ah, ben tiens, justement, il lit Ésaïe. Oh, ça tombe bien. Boum! Le gars se convertit, il ramène en Éthiopie le message, la parole de Dieu. Puis là, il est juste enlevé par l'esprit, il arrive à Samarie. Il n'est pas du tout troublé, le bonhomme. Il prêche la parole de Dieu, la ville est bouleversée. Et en fait, la Bible, c'est que des gens normaux, simples et limités, mais qui font confiance à la puissance de la croix, qui arrivent à vivre leur vie en demeurant dans la grâce. Ne te laisse pas déchoir de la grâce de Dieu. Ne laisse jamais le péché te faire croire que tu as trop péché. Frères et sœurs, je reçois des messages toutes les semaines de gens qui me disent « Je suis allé trop loin, j'ai trop péché, Dieu ne peut pas me pardonner. » Là, tu te trompes, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas te pardonner, c'est toi qui ne veux pas te pardonner. Ce n'est pas la même chose. Mais ne te laisse jamais enlever de la grâce. La grâce ouvre le chemin du royaume de Dieu. Elle ouvre le chemin des possibilités de Dieu. Et Dieu veut bâtir. Dieu veut qu'on ait des maisons fortes, des familles fortes, des églises fortes. Dieu veut que ta vie soit forte. Dieu veut que tu aies de l'autorité dans ta vie. Dieu veut que ta vie rayonne. La Bible nous dit, nous apprend ceci. Dieu a choisi un peuple dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Pour une seule raison. Dieu a dit, je vais les choisir. Il aurait pu choisir un autre peuple. Pas qu'Israël était beau, parfait, incroyable. Mais Dieu a dit, j'ai choisi un peuple pour y faire régner mon nom. Et les autres nations vont voir. Elles vont voir le Dieu qui marche au milieu de ce peuple. Et à cause de ça, elles seront attirées à moi. Et je veux te le dire, Dieu veut aussi que tu règnes. Dieu veut que ta vie ait une intensité, que tu aies du succès. C'est pas un gros mot. Dis à la personne à côté de toi, oui, oui, Dieu veut que tu aies du succès. Dieu veut que tu aies du succès. Parce que je vais te dire une chose, quand tu as du succès, le succès, il n'est pas pour toi. Le succès, il n'est pas pour toi. Il est pour le Dieu qui te donne du succès. La Bible dit que le monde va voir les bonnes œuvres et le monde va glorifier le Père parce qu'il va voir les bonnes œuvres qui jaillissent de ta vie. En d'autres mots, la Bible dit quoi ? La Bible dit que le monde va regarder Marc, ils vont dire, ce gars-là, sérieux ? Mais il y a tellement de choses qui sortent de lui, qui ne correspondent pas à qui il est, que le monde va dire, mais c'est pas possible, c'est quoi ton secret ? C'est le Dieu de Marc, son secret. C'est Jésus-Christ son secret, celui qui travaille en lui, celui qui le relève quand il tombe, celui qui le restaure, celui qui le rappelle les paroles anciennes, celui qui casse les paroles de mort qui ont été dites sur sa vie. C'est ce Dieu-là. Et le but de Dieu, c'est qu'on brille. Vous savez, il n'y a aucune gloire à être misérable. Nous, on est tombés dans des théologies de dingue. Et je prie au nom de Jésus que toutes ces théologies de mensonges, de doctrines de démons soient brisées dans nos cœurs. Parce que ce n'est pas plus je suis misérable, plus je suis saint. Ce n'est pas oh, parce qu'on est un petit nombre, c'est le signe de la qualité. Alors je vais te dire, si tu as un médecin, il y a très peu de monde qui y va, c'est pas le signe de la qualité. D'accord ? Si tu as un garagiste à côté de chez toi, il y a peu de monde qui y va, c'est pas parce qu'il est exceptionnellement compétent. D'accord ? Dieu veut qu'on ait du succès. Et je réfléchissais sur la maison et je dis, Seigneur, mais quelle est la clé ? Comment amener à avoir des vies qui libèrent encore plus ta faveur, des vies qui règnent, des vies qui vivent dans la vie, des vies qui sont... La Bible dit qu'on n'est pas appelé à être la queue, on est appelé à être la tête. Et moi, je regarde ce verset et je dis, Seigneur, je suis désolé, mais parfois les chrétiens, franchement, ils sont loin d'être la tête. C'est plutôt le rassemblement des losers que des héros. Et je suis très sérieux. Dieu a plus pour nous. Dis à la personne à côté de toi, tu n'es pas un loser. Jésus n'a pas échoué à la croix. Jésus a accompli, il a tout accompli à la croix. Si Jésus avait échoué à la croix, alors les disciples seraient des losers enfermés dans une chambre haute où de toute façon le but c'est juste de passer, de survivre. Mais parce que Christ a tout accompli, que l'esprit est libéré, ils sont passés du statut de limité, de petit peu, au statut d'homme de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Une femme de Dieu, c'est pas quelqu'un qui a sa tête sur une affiche, hein ? Moi, j'ai dit à Pasteur Romain, je veux plus qu'on mette ma tête sur les affiches. Finito. Mais ça, c'est moi, hein. C'est pas une règle de l'éternel. Et je veux plus. Parce que c'est pas ça qui fait ton statut. Ce qui fait ton statut, c'est Jésus-Christ qui t'a racheté, qui t'a établi sur le ferme rocher et qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore là parce que c'est lui qui te tient. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin de Dieu. Une femme de Dieu, c'est une femme qui sait qu'elle a besoin de Dieu. C'est tout. Un jour, quelqu'un m'a dit, ça, c'est un grand homme de Dieu. Je dis, mais c'est comment on mesure ça ? Grand homme de Dieu, petit homme de Dieu, moyen homme de Dieu ? Seigneur Jésus, la chose la plus importante, et ça, vous le savez, c'est un rappel simple, la chose la plus importante dans notre vie, si nous voulons bâtir une maison solide, c'est d'avoir un fondement qui va valider toute ma construction. Tout ce que je bâtis doit être fondé sur une seule chose. Je l'ai dit déjà 10 fois, mais je veux que ce soit clair dans nos têtes. Le problème, vous allez voir, c'est qu'on sait des choses qui nous bloquent après. La Bible dit ceci, donc le fondement valide ma fondation. Tout ce que je dois bâtir doit être sur le bon fondement. Vous connaissez ces versets, 1 Corinthiens 3, 10 à 13, je lis pour vous. C'est Paul qui nous parle. Et Paul nous dit, « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde. à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Donc, qu'est-ce que nous dit Paul ? Paul nous dit, tu dois être fondé sur la grâce. C'est ça qu'il dit. Tu dois être fondé sur l'œuvre de Jésus-Christ. Ne laisse rien ni personne te faire sortir de là. Tous tes rêves, tous les appels, tous les choses qui peuvent monter dans ton cœur doivent toujours s'enraciner sur ces vérités. La croix, Jésus-Christ, tout est accompli. Le Saint-Esprit qui est avec moi, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Je m'enracine sur ça. Ça, en général, on le sait, ça. Vous savez, moi, quand je vais dans les églises et ou même quand on parle avec les frères et sœurs, en général, c'est rare que quelqu'un qui est chrétien me dise « Ah, mais moi, je sais pas, que, j'ai oublié que mon fondement devait être Jésus-Christ. » Ça, en général, on le sait. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Paul nous dit ici, il dit clairement, il dit « Le fondement doit être Jésus-Christ, mais après, toi, tu construis dessus. » C'est ce qu'il dit. Tu construis dessus. Et attention à la manière dont tu construis. Assure-toi que tu es toujours sur le fondement. Mais tu dois construire dessus. Et c'est ce que tu auras construit sur ce fondement qui va être éprouvé dans les cieux. Et lorsque je lisais ce texte-là, je comprends une chose, c'est que l'importance d'être en Christ, c'est que ça sonde mes motivations. Je sais pourquoi je fais les choses. Je sais je suis capable d'avoir. Ça libère un parfum dans ma vie, un parfum spirituel. C'est pas forcément visible ou palpable, mais il y a quelque chose qui prend place parce que je suis sur le bon fondement. Mais voici une chose très importante que je veux vous dire de la part du Seigneur. Vraiment, pendant que je priais pour ce message, j'ai vraiment comme si Dieu me disait ça pour moi. Il me disait, Mathieu, parfois tu veilles tellement à conserver le fondement que tu ne bâtis pas. Le fondement n'a aucune utilité si tu ne bâtis pas. Regardez ça, Jésus est la pierre angulaire, il est la fondation, il est le roc. On apprend à nos enfants, dans les classes des enfants, qu'il y avait un fou qui a bâti sur le sable sa maison. Et quand la tempête est venue, elle est tombée. Pourquoi ? Parce que la fondation n'était pas valide. Elle n'était pas solide. Et on doit comprendre une chose, c'est que je dois veiller à la fondation, mais parfois on veille tellement à la fondation qu'on ne bâtit rien. On est tellement en train de... Oui, on se fait une espèce de je sais pas comment dire, d'auto-flagellation de... Oula, attention, je veux pas avoir d'ambition, je veux que toute la gloire soit pour lui, c'est pas moi, c'est Jésus. Tous ces trucs fous qui font qu'ah oui, la fondation, elle est pure, elle est solide, hein, mais il n'y a rien dessus. Si demain, quelqu'un vient te voir et te dit, je veux t'offrir une maison, mais il y a juste une dalle. Tu dis merci, mais ce qui est important, c'est ce qu'on va construire dessus. Alors je vais te dire quelque chose, peut-être qui va venir te titiller. Le fondement n'est pas tout. Le fondement est important, mais ce n'est pas tout. Si tu ne construis pas sur le fondement, tu n'as rien. Tu as le ciel, c'est tout. C'est beau déjà. Mais je veux te dire que Jésus n'est pas venu simplement pour te sauver. Il est venu, et il a dépouillé les puissances des ténèbres afin que toi tu puisses entrer dans ce qu'il avait prévu pour toi. Ce n'est pas juste une histoire de salut, la croix. C'est une histoire de règne. Amen. Le fondement est important, il est décisif, mais il est insuffisant si tu ne bâtis pas. Voici la révélation du jour, la maison ne se construira pas toute seule si personne ne construit. Voici la révélation du jour. Je suis ici à vous parler devant, je parle devant vous parce qu'il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui se sont tenus devant Dieu pour moi, mais il y a surtout quelqu'un qui un jour a décidé de me parler de Jésus. Non ? Le fondement est important, mais s'il y a personne qui fait rien, il se passe rien. C'est puissant ça. Hein ? Vous allez voir, après on va faire des maths. J'ai révisé ma table de zéro et je me suis rendu compte que même 1000 fois zéro, ça fait toujours zéro. Vous allez voir, c'est très intéressant la table de zéro. Je me suis toujours posé la question, pourquoi elle existe celle-là ? Mais en fait, elle a une utilité. La deuxième chose que je veux partager avec vous, n'instaure pas des principes dans ta vie que Dieu n'a pas instaurés. Il y a trop de principes que Dieu n'a jamais instaurés. Il y a des principes spirituels, il y a des exceptions aux principes spirituels, et parfois nous on a fait des exceptions aux principes spirituels, des principes spirituels. Ça, vous êtes encore là ? N'instaure pas des principes que Dieu n'a pas instaurés. La grâce, c'est simple. Si tes principes te font sortir de la grâce, c'est que ton principe ne sert à rien. Je vais aller même plus loin, c'est qu'il n'est pas inspiré de Dieu. Tu peux prendre la Bible, la même Bible qui te construit, elle peut aussi te tuer. Hein. Elle peut te mettre sous un joug mortel. La Bible dit qu'elle est parole de vie ou parole de mort. Le diable peut utiliser la Bible pour briser ta vie. Et on doit juste comprendre qu'on ne doit pas instaurer des principes que Dieu n'a pas instaurés. Regardez ça. On va dans Genèse chapitre 3. Il est dit ceci. C'est Dieu qui parle. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, vous connaissez l'histoire, on est à la chute. Juste après avoir désobéi à Dieu, Dieu vient voir Adam et lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage et que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Pourquoi je lis ce texte-là ? Parce qu'il est important pour comprendre comment Dieu fonctionne, de comprendre l'environnement dans lequel on est. Nous sommes dans l'environnement qui est décrit là. Il est dit ceci, à la chute, alors vous allez me dire, oui, mais on a été racheté, restauré. Non, mais là, il est question de la création. La création sera rachetée à un moment donné aussi, à la fin. Mais la création dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est cette création où si tu ne cultives pas, ou si tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est les épines qui vont pousser. Lorsqu'on habitait à Brignoles, j'ai voulu faire un gazon. J'étais plein de foi. Je dis, je vais avoir un beau gazon. J'ai planté mon gazon et c'est les mauvaises herbes qui poussaient. Là, j'ai compris un truc. C'est beaucoup plus simple à une mauvaise herbe de pousser qu'à une bonne semence. J'ai compris ce qu'il y a écrit dans Genèse chapitre 3. Dieu dit à Adam, tu vas cultiver le jardin. Il lui avait déjà dit avant. Il lui avait déjà dit, c'est pas à cause de la chute qu'il doit travailler. Mais là, Dieu lui dit, mais à cause de la chute, ça va être dur. Si tu ne travailles pas, si tu ne bâtis pas, ce sont les ronces qui vont dominer. Ce sont les épines qui vont dominer. Dans d'autres passages, dans l'Ancien Testament, il est dit que si nous ne prenons pas possession du pays que Dieu a pour nous, ce seront les ronces et les chacals qui vont y régner. Donc c'est comme si le mauvais pouvait pousser de manière spontanée et le bon nécessite quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui est sur le fondement, et qui travaille, qui bâtit, qui amène quelque chose de différent. La notion de cultiver, elle est fondamentale. Dans le jardin d'Éden, vous savez, je ne sais pas quelle image on a, nous, d'Adam, mais Adam, ce n'était pas un petit gars avec une feuille, là, qui lui cachait un cache-sexe en forme de feuille de figuier. Il est là, il ne fait rien de la journée, il attend. Ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, tu vas cultiver le jardin. C'était pourtant dans la perfection absolue, Dieu lui dit, Adam, je veux t'associer à moi tellement que tu vas décider ce qui va pousser dans le jardin des délices, dans Éden. Donc ça a toujours été le plan de Dieu que nous puissions cultiver notre vie pour faire pousser dans notre vie ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a des œuvres préparées d'avance. Vous savez que c'est écrit ça. Voici la grande révélation de l'après-midi. Il y a des œuvres préparées d'avance pour des gens qui les font. Si tu es assis sur ta chaise, les œuvres préparées d'avance, elles sont toujours préparées d'avance. Hein. Mais elles attendent que tu te lèves et que tu te mettes en route. Vous savez, on en discutait cette semaine avec l'homme de Dieu. Je lui disais, mais il y a presque un truc moi qui vient m'irriter maintenant, c'est quand on prie pour les âmes. Dans toutes les églises, on prie pour les âmes. Moi, je prie pour les âmes. Seigneur, envoie des âmes. Voici la révélation qui est pour toi cet après-midi. L'âme en question. Pour qu'elle apparaisse au milieu de nous, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui va lui parler hein, et l'inviter et la transporter et peut-être lui faire un repas. Je ne sais pas, mais j'ai jamais vu, moi. Vous savez, on a fait des soirées d'intercession, amène les âmes. J'ai jamais vu les âmes arriver comme ça. Hein. Oh, une âme ! Et c'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas ça. Parce que Dieu veut qu'on collabore avec lui. Dieu veut qu'on cultive le jardin avec lui. Et on doit comprendre cet environnement. Et si tu ne cultives pas, ta part, c'est les ronces et les chacals. si tu n'es pas en mouvement, même si tu as le bon fondement, tu as des ronces et des chacals à ta table. Et c'est pour ça, et vous savez, j'essaie de vous le rendre consommable, ce que je partage cet après-midi, mais pour moi, c'est une réponse profonde à cette question, de dire, Seigneur, comment ça se fait qu'il y a tellement de choses qu'on ne vit pas ? Tout simplement parce qu'on est tellement focalisé sur le fondement et qu'on ne fait rien, on attend que Dieu fasse. Seigneur, amène les multitudes. Seigneur, donne-moi un ministère. Seigneur, donne-moi une entreprise. Seigneur... Alors je sais qu'il y a toujours le témoignage de quelqu'un qui était chez lui, le téléphone a sonné, c'était un patron qui voulait l'embaucher profondément. Mais en général, c'est toi qui as allé poser un CV. Non ? Vous êtes là ? Le royaume de Dieu, c'est simple, c'est tellement simple que des fois, on est devenu fou. Parce que c'est trop simple. Apprends à fonctionner dans le pays promis. Je lis pour vous ce texte et j'arrive à la fin. On est dans Josué chapitre 7. Vous connaissez Josué chapitre 6, vous le connaissez bien. Josué chapitre 6, c'est la chute de Jéricho. Amen. La chute de Jéricho. On loue Dieu et les murailles s'effondrent. Amen. Non ? Amen. Moi, je vais dans les églises, quand il y a une muraille, on me dit, on va louer Dieu, elle va s'effondrer. Amen. Le problème, c'est que Jéricho, c'est qu'une fois dans notre Bible. Une fois. Après Josué chapitre 6, il y a Josué chapitre 7. Et Josué chapitre 7, je vous fais l'économie de tout ça. Il y a une histoire avec Akan qui a volé des choses interdites, tout ça, qui va impacter le peuple de Dieu. Mais il y a aussi, pour Josué, le besoin de comprendre comment Dieu fonctionne. Il est dit ceci, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Haï, c'est la ville juste après. La Bible dit que Jéricho était barricadé, les murailles étaient immenses, c'était une ville de fous, Jéricho. Ils ont tourné 7 fois, ils ont crié un coup, tout est tombé. Donc eux, ils se disent, mais gloire à Dieu, on va faire la conquête en 2-3 mouvements. Amenez-nous quelques Fabiens et quelques Manu, on va faire de la louange et de l'adoration et on aura le pays promis. Et Josué a été enseigné par Dieu, parce que c'est ça qu'il y a dans la tête de Josué quand il va à Haï. Parce qu'il dit ceci, il envoie ses espions, il leur dit « Montez, explorez le pays ». Et ses hommes montèrent et explorèrent. Et ils revinrent auprès de Josué et dirent « Attention, l'orgueil incroyable. Il est inutile de me faire marcher tout le peuple. 2-3 000 hommes suffiront. Hein. » Je veux dire, on est le peuple, on chante, on prend des forteresses. Alors là, cette petite ville... 2-3 000 et c'est bon, on aura la victoire, suffiront pour battre Haï, ne te donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre, Haï était en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Je veux te dire quelque chose, parfois tu peux vouloir faire tomber une muraille en louant Dieu, tu prends la fuite, parce que c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu va apprendre au peuple à marcher dans l'équilibre entre l'intervention divine et les combats pour remporter des victoires. Gloire à Dieu pour les victoires divines spontanées. Gloire à Dieu. On a tous eu des Jéricho qui sont tombés parce qu'on a adoré. On a tous eu des combats, on n'a même pas eu à combattre, non ? Mais dans le pays promis, quand ils sont rentrés, toutes leurs conquêtes ont été au travers de la guerre. J'ai une question pour toi. Tu préfères le désert ou le pays promis ? C'est pas un piège, hein ? Tu préfères le désert ou le pays promis ? Pays promis, quelques-uns, les autres ne sont pas vraiment sûrs. Tu vois, dans le désert, ce qui est incroyable, c'est que tu es dans le désert, tu te lèves le matin, le repas est fait. C'est pas vrai, c'est écrit dans vos Bibles. Chaque jour, ils avaient la manne et ils pouvaient s'en nourrir. Dans le désert, la présence de Dieu est visible. Colonne de feu la nuit, colonne de nuée le jour. Sa présence, tu la vois. C'est pas, vous savez, les Israélites dans l'Ancien Testament, ils disaient pas « Est-ce que vous sentez que Dieu est là ?» Ils disaient « Voyez que Dieu est là. » La colonne était là. Donc dans le désert, colonne de nuée, colonne de feu, la manne tous les jours, ta soif. T'as soif dans le désert ? Allez, parle à un rocher, il va te donner une source. Amen. Tu veux de la viande ? Parce qu'il n'était pas vegan, l'israélite. Hein ? Tu veux de la viande ? Seigneur, envoie-nous des cailles. C'était bien dans le désert. Parce que quand ils sont rentrés dans le pays promis, la Bible nous enseigne ceci, c'est que la nuée va s'arrêter, la colonne de feu va s'arrêter, la manne va s'arrêter. C'est quoi cette histoire ? Vous savez, parfois, et j'étais interpellé par le Seigneur justement au travers de ce que je vous dis là maintenant, c'est que littéralement, je priais hier et le Seigneur est venu me confronter. Il m'a dit, Mathieu, des fois, tu demandes les manifestations du désert dans ta vie. Des fois, on a tous envie d'avoir la colonne. On a tous envie d'avoir la manne. On a tous envie d'avoir l'eau. On a tous envie d'avoir le Dieu qui marche devant nous et l'ennemi qui recule. On le veut. Mais ça, c'est l'écosystème du désert. Attention à ce que tu veux. Parce que quand ils sont rentrés dans la terre promise, Dieu leur a fait faire une petite transition avec Jéricho, en leur disant « Je suis là malgré tout, les amis. C'est pas parce que tu ne me vois pas que je suis plus là. Je suis là, mais attention, il va falloir commencer à combattre. » Et Dieu avait donné toute la carte de la conquête à Moïse. Et les Israélites ne vont en conquérir que 13%. Donc la conquête d'Israël, c'est 13% de ce que Dieu voulait. Moi, je prie et je dis, Seigneur, je ne veux pas vivre 13% de ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas vivre 13%. Alors voici l'équilibre. Et j'arrive, je termine par ça. L'équilibre, c'est, je passe du temps avec Dieu. Je prie. Je vais dans sa présence. Et dans sa présence, Dieu me donne des directives. Dieu me donne la carte de la conquête. Dieu me dit les œuvres préparées d'avance. Dans sa présence, le Saint-Esprit me parle de l'appel de Dieu sur ma vie. Le Saint-Esprit fait monter dans mon cœur des projets. Dans sa présence, il y a des idées folles qui naissent. Je vais m'occuper des pauvres, je vais m'occuper des enfants. Oh tiens, je vais monter une entreprise qui va révolutionner tel truc. Dans sa présence, il se passe des choses folles. Ça, c'est la prière, ça, c'est la présence. Mais ce qui valide la réalité de tes moments avec Dieu, c'est si ta prière t'a poussé à faire quelque chose après. Parce que si ta prière ne te pousse pas à faire quelque chose après, c'est que ta prière est trop spirituelle. Je veux vous le dire de la part du Seigneur, frères et sœurs, parfois vous êtes vraiment trop spirituels pour Christ. Parce que parfois la clé du succès, ce n'est pas « je vais prier ». La clé du succès, c'est « je me lève et je vais bouger ». Pendant combien d'années je disais, Seigneur, je veux vivre ce que Paul a vécu. Je veux vivre ce que Paul a vécu. Paul, qu'est-ce que c'est l'histoire de Paul ? Paul, c'est le chemin de Damas, un homme qui est bouleversé par la rencontre avec Jésus, un homme qui va être mis de côté pendant toute une saison de sa vie, mais qui revient à Antioche. Vous allez dans Actes chapitre 11, il revient à Antioche. Et là, la Bible dit qu'ils ont une veillée de prière. Amen. C'est bon ça, les moments de prière ensemble. Une veillée de prière. Et dans cette veillée de prière, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Connaissez ce texte ? Et qu'est-ce qu'il fait Paul après ? Si Paul était membre de l'église M en 2021, il aurait dit « Ah ben là, je vais jeûner pour éprouver la parole. » Il aurait peut-être contacté le pasteur Romaric pour qu'il lui donne 2-3 conseils spirituels pour faire un jeûne sec de 21 jours. Pour être plus vraiment sûr, quoi. Peut-être qu'il aurait dit, j'attends qu'un prophète vienne me donner 2-3 paroles pour confirmer tout ça. Vous savez ce que Paul a fait ? Il s'est levé, il est parti. Et il s'est mis à marcher. Et il a marché tout le long du bassin méditerranéen. Nous, on lit ces histoires rapidement. Actes des apôtres, c'est 14 ans. 14 ans dans les actes des apôtres. En 14 ans, je peux vous dire qu'il en a eu des cloques aux pieds, le monsieur. Il y a eu des saisons où il a fait des tentes. Il n'a pas fait des tentes pour se faire plaisir. Il a fait des tentes parce qu'il voulait vivre ce que Dieu lui avait promis. Dieu te parle pour que tu te mettes en mouvement. Ta spiritualité ne doit pas te limiter, elle doit te libérer. Si ta spiritualité t'empêche d'agir parce que tu as peur de faire ci, tu as peur de déplaire, tu as peur de ne pas avoir les bonnes motivations, tu as peur, c'est que ta spiritualité n'est pas bonne. La présence de Dieu doit nous pousser à aller de l'avant. Je lis dans la parole de Dieu, il y a tellement d'endroits où on voit dans la parole de Dieu que les hommes prient, Jésus prie toute une nuit, il en choisit 12 et il les envoie. On voit dans la parole de Dieu, Gethsémané, Jésus prie à Gethsémané, pourquoi ? Parce que derrière il doit se mettre en mouvement pour aller à la croix. Tu n'as pas été sauvé par une soirée de prière. Tu as été sauvé par Jésus-Christ qui est monté à la croix pour de vrai pour toi. Et nous, on veut que le monde change parce qu'on va prier. Comprenez bien, on doit prier, mais vous le savez trop en fait. Je sais pas, en tout cas, peut-être qu'elles existent, ces églises, mais moi, j'ai jamais rencontré une église où les gens prient pas. Non ? Si vous avez un peu de vie chrétienne, dans toutes les églises où vous avez été, il y avait des gens qui priaient, non ? Et comment ça se fait qu'il manquait parfois quelque chose ? Parce que parfois, notre prière nous limite. On croit que c'est ça, la clé. La prière, c'est l'endroit où Dieu te parle. La prière, c'est ce qui maintient en vie la parole que Dieu t'a dite. Mais si tu ne te mets pas en mouvement, ça veut dire que la parole que Dieu t'a dite, tu n'y crois pas. Tu ne la prends pas par la foi. Et je terminerai par ma table de multiplication. 0 fois 0 égale 0. La Bible dit que lorsque le sacrificateur mettait sur l'autel le sacrifice, le feu tombait. Mais le sacrificateur mettait sur l'autel. Tu sais ce qui se passait, cette histoire ? Cette histoire, c'est qu'il y avait un monsieur qui voulait faire quelque chose pour Dieu, qui s'occupait d'un agneau ou d'un bœuf ou n'importe quoi. Il le prenait, il lui donnait à manger, il le nettoyait, il raclait son enclos pendant une année, des fois même pendant plusieurs années selon le type d'animal. Mais après, qu'est-ce qu'il faisait ? Il partait de son endroit perdu en Israël et il se tirait son bœuf jusqu'à Jérusalem. Alors, nous, on est là, il n'était pas en voiture, le monsieur. Hein ? Il tirait son bœuf jusqu'à Jérusalem et il arrivait avec son bœuf. Et le bœuf, il fallait le tuer. Si tu veux tuer un bœuf se fait pas tuer comme ça. Hein. Il te dit pas, oh, tue-moi. Comprenez une chose, Dieu envoyait son feu, mais c'était pas juste l'animal, c'était quelqu'un qui s'était donné pour cet animal, c'était quelqu'un qui avait fait quelque chose. Si tu n'avais rien sur l'autel, il n'y avait pas le feu qui tombait. La Bible dit que l'on récolte ce que l'on sème. Ça, c'est une bonne question, Romaric. Qu'est-ce que je récolte en ce moment ? Qu'est-ce que tu récoltes ? Parce que tu ne peux pas récolter autre chose que ce que tu as semé. Semer, voici la révélation. Tu sais ce que c'est semer ? C'est un monsieur ou une dame qui s'est levé un matin, qui a mis des bottes et des gants et qui a fendu la terre et qui a mis une graine dedans. Ce n'est pas un monsieur qui s'est mis à l'église M et qui a dit « Seigneur, fais pousser !» C'est un monsieur qui a prié pour le Dieu qui donne la pluie. C'est un monsieur qui dit « Seigneur, protège mes semences ». Il prie ce monsieur-là, mais il agit. Il faut qu'il y ait cet équilibre dans nos vies. Si tu ne construis pas, tu n'obtiens pas, tu n'as pas de maison. Je termine par ceci, ce que le Seigneur a mis vraiment à cœur pour vous. C'était ce matin dans la prière. J'étais dans la colline, je priais et je repassais ce verset. En fait, j'ai vraiment eu la voix du Saint-Esprit qui est venue me heurter et je me suis rappelé ce verset de Josué. Dieu dit, connaissez toute l'histoire, si tu mets en pratique les paroles que je te donne aujourd'hui, c'est exactement un Corinthien qu'on a lu tout à l'heure dans l'Ancien Testament. En gros, Dieu lui dit, tu dois avoir les bons fondements. Mais après, Dieu lui dit, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Attendez, attention, hein. Il n'y a pas écrit « tu auras du succès ». Il y a écrit « tu auras du succès dans toutes tes entreprises ». Donc Dieu a prévu un succès pour toi. Mais pour que ce succès soit libéré, il faut qu'il y ait une entreprise. Il faut qu'il y ait une entreprise. Il y a un succès que Dieu a prévu pour moi, mais Dieu, dans sa présence, il me parle, il me fortifie, il me donne des directives, j'ai des appels et encore des appels et des dons, et j'explose de dons, mais il faut que j'y aille pour avoir le succès dans mes entreprises. La Bible dit, le précieux trésor d'un homme, Proverbe 12, verset 27, le précieux trésor d'un homme. Est-ce que déjà c'est bien d'avoir un trésor ? C'est bien, mais là c'est le précieux trésor, c'est-à-dire qu'il y a un trésor spécifique qui est là pour toi, il est accolé à toi. Lorsque tu es arrivé dans ce monde, tu étais déjà pourvu d'un trésor, il est avec toi. Si tu te retournes, tu peux le voir, il y a un trésor. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Alors comprenez ce que je dis cet après-midi. Je crois au Dieu qui pourvoit miraculeusement. Mais je crois aussi au Dieu qui m'a dit, j'ai mis en toi un appel, j'ai mis en toi des talents, des dons, libère-les en te mettant en mouvement. Paul est devenu Paul parce qu'il s'est mis à marcher, parce qu'il a eu des ampoules aux pieds, parce qu'il a fait des tentes, parce qu'il était consumé par la vision. La vision se trouve dans la prière, mais l'accomplissement se trouve dans l'action. Tu ne fais rien, tu n'obtiens rien. 0 × 0 = 0. 1000 × 0 = 0. 100 000. Tu prends Jésus. Si on devait donner un nombre à Jésus, on dirait Jésus, c'est le 1 milliard. Mais même le 1 milliard fois 0, ça fait 0. Le précieux trésor d'un homme. Je dis Seigneur cet après-midi, il y a un trésor pour moi. Et je veux aller le chercher. Il y a un succès pour moi. Et je veux le vivre. Il y a une entreprise qui va libérer le succès dans ta vie. Pourquoi ? Parce que si tu as du succès, Dieu a du succès. Et je prie pour nous en tant qu'église. Je dis Seigneur, il y a un succès pour nous en tant qu'église. Il y a un succès pour ma maison. Il y a un succès. Il y a un succès qui est là pour chacun d'entre nous, pour mon ministère, pour mon appel. Prie pour ton ministère. Amen. C'est bien, c'est important. Mais bouge-toi. Grandis. Vous savez que Romaric, il prie pour que Dieu l'aide à avoir l'hébreu. Eh bien, vous savez comment Dieu l'aide à avoir l'hébreu ? En lui disant, apprends l'hébreu. Je vous le dis avec amour parce que moi-même, je l'ai dit des fois. Mon frère, prie pour moi. Prie pour moi pour que je sois délivré de telles choses. Mon frère, prie pour moi pour que j'ai la provision. Mon frère, prie pour moi pour que... Et des fois, la réponse à ma demande, c'était « Mathieu, va bosser. Mathieu, coupe cette relation. » Jésus a dit des choses fortes dans le Nouveau Testament. Vous savez, je vous assure, vous devriez le lire. Il a dit « Si ton œil est un problème pour toi, arrache-le, jette-le loin de toi. » Des fois, la victoire, elle est très simple. Joseph, vous savez, Joseph, il est devant la femme de Potiphar. La Bible dit que Potiphar, grosso modo, c'était le ministre de la Défense de l'époque. C'était un homme très riche. Sa femme devait être très belle. Et là, Joseph est là, il n'y a personne dans la maison. Vous savez, Joseph n'a pas dit « Au nom de Jésus, arrête-toi ». Il n'a pas dit « Marc, peux-tu prier pour moi ?» Il n'a pas dit « Je vais faire un jeûne de 21 jours ». Vous savez ce qu'il a fait, Joseph ? Il est parti tout nu. C'est comme ça qu'il a eu la victoire et qu'il a préservé son cœur. Des fois, on est trop spirituel. Je veux vous le dire, il y a des victoires qui sont pour nous. Dis à la personne à côté de toi, il y a des victoires qui sont pour toi. Je dis merci au Seigneur pour la manne, merci au Seigneur pour la colonne de nuée et la colonne de feu, mais je préfère combattre dans le pays promis plutôt que d'être dans le désert à tourner en rond pendant 40 ans. Et je déclare sur ta vie, ça fait trop longtemps que tu tournes en rond. Ça fait trop longtemps. Il est temps d'arrêter ce cercle et de franchir le Jourdain et de libérer les rêves que Dieu a mis en toi. Il y a des gens, vous avez des ministères. Vous avez, j'ai un appel d'évangéliste. Sors dans la rue, parle à quelqu'un. Je veux m'occuper des pauvres. Trouve un pauvre. Je vais t'aider à en trouver un si tu veux. J'ai à cœur les familles. Eh bien, commence à voir les familles autour de toi. Seigneur, sers-toi de moi pour être une lumière. Va parler à ton voisin. Je te garantis, il a besoin de la lumière. Et en fait, il y a tellement de choses que tu peux libérer dès maintenant au travers de ton activité. Seigneur, que les âmes viennent en multitude. Alors, on va faire un truc. Ben, on va aller les chercher. Parce que Dieu va travailler avec nous. Je t'assure, si tu mets ta main... Si tu mets le bâton dans la mer rouge, Dieu va ouvrir la mer rouge. Mais si tu mets rien, il se passera rien, même si tu pries. Trouvons cet équilibre parfait entre la spiritualité et l'activité. Entre la je suis corps, âme et esprit. Tu es corps, âme et esprit. Je sais qu'on a été racheté, mais même racheté, tu as un corps. Et ce corps, il se déplace dans le concret. J'étais à la maison cet après-midi, j'ai dit « Seigneur, amène-moi à l'église ». Eh bien, je ne suis pas arrivé à l'église. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne suis pas un esprit, je suis un corps. Et pour venir ici, il a fallu que je monte dans une voiture qui m'a transporté ici. Mais nous, des fois, on est tellement spirituels qu'on prie pour des choses que Dieu veut nous utiliser pour les voir s'accomplir. La victoire est encore plus grande quand c'est quelqu'un de faible qui accomplit des choses fortes. C'est encore plus grand quand les choses folles de ce monde libèrent le trésor, libèrent la bénédiction, libèrent la lumière. Dieu n'est pas... Dieu, vous savez, nous, on croit que si on a trop de succès, Dieu se sent mal à l'aise. Il est en concurrence avec nous. Dieu veut que tu aies du succès. mais il a caché le succès dans les entreprises. Alors voici ma prière, on arrête là. Fabien m'a dit, est-ce qu'on fait un appel cet après-midi? J'ai dit, non, il n'y a pas d'appel cet après-midi. Je veux prier pour nous et que, en fait, que tout ce que Dieu nous a déjà dit, parce que je suis sûr que Dieu vous en a dit des choses. Non? Est-ce que quelqu'un a déjà reçu une parole de la part de Dieu ici? Qui n'est pas trop sur la droite, pas mal à gauche? On a tous eu une parole. Vous savez, moi j'ai fait une prière au Seigneur ces derniers temps. J'ai vraiment à cœur depuis plusieurs mois notre quartier, là où on est. C'est là où j'ai grandi. Et pendant des années, en fait, je m'en suis même pas... J'ai même pas été préoccupé par mon village. Je gagnais les nations, par contre. Hein, parce que c'est plus simple de gagner les nations que gagner son voisin. Mais, vous savez, j'ai vraiment prié pour ça ces derniers temps. J'ai dit, Seigneur, comment je peux bâtir des ponts? Comment je peux être utilisé pour ce quartier? Comment? Ben, déjà, les choses ont fait que je vais à chaque événement du village, j'y vais. Déjà, ça commence comme ça. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Enfin, c'est pas lui, mais en tout cas, il a permis que ça se passe comme ça. J'ai mon voisin qui a un cancer. Je le sais depuis 3 jours. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais être utilisé pour ce village. Ben, il me met à côté d'un voisin qui a un cancer. Ça commence par là. Bien sûr, je vais prier pour lui, mais je vais faire plus que ça. On a d'autres voisins, un jeune couple, on veut leur parler de Jésus. Mais vous savez ce qu'on a fait? On les a invités à boire l'apéro. Parce que ça, c'est puissant. Mais les amis, on se parle en français. Nous, on dit, chocoro baba baba, kodo baba baba baba. Invite-le à l'apéro. Arrête ton délire. Sois normal. Un chrétien, c'est quelqu'un de... En fait, nous, on est plus normaux que les normaux. On a Christ en nous. On est libre de tout. On les invite à l'apéro, mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas, eux. Ils arrivent et bam, bam, bam. Olivier, les barbecues. Ils ne savent pas. Ils croient qu'ils vont manger des saucisses merguez, mais il y a des versets dans la saucisse. Je prends des exemples simples parce qu'il faut qu'on soit simple. Tu veux faire bouger les choses? Fais des choses simples. Fais des choses simples. Moi, je prie pour que vous ayez le travail que vous allez avoir ou que vous avez ne soit pas un travail alimentaire, que ce soit le travail que Dieu veut pour toi. Mais pour que ça s'accomplisse, il faut que tu ailles te bouger pour le trouver. Tu comprends ça? Si tu ne fais rien, la Bible dit « jette ton pain à la surface des eaux pour que tu le récupères, que tu le retrouves ». Mais si tu ne jettes rien, tu récupères rien. 0 × 0 = 0. J'ai compris pourquoi la table de zéro existe. Dieu a permis qu'elle existe pour me rappeler à moi que si je ne fais rien, même si je multiplie par le plus grand des nombres, j'obtiendrai rien. Alors je prie maintenant dans le nom de Jésus. Pour ton église et pour ton peuple, Père, dans le nom de Jésus. Aide-nous à recevoir cette vérité spirituelle. Mes mots sont trop faibles, mais il y a tellement de bénédictions. Je déclare ce verset pour nous comme jamais. Il y a du succès dans des entreprises. Il y a du succès dans tes entreprises, mon frère, ma sœur. Il y a un trésor dans ton activité. Il y a la multiplication, il y a la bénédiction. Dieu multiplie ce que je lui donne. Dieu multiplie et tout ce que tu vas lui donner, il va le multiplier. Mais c'est à toi de te mettre en mouvement vers ce qu'il t'a donné. Je prie pour que tu sois, que tu trouves, que tu sois connecté avec les œuvres préparées d'avance, que tu puisses poser des actes qui portent du fruit, poser des actes qui vont accomplir la volonté du Père, qui vont libérer le royaume de Dieu sur la terre. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous soyons spirituel, mais aussi dans le réel. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière, mais aussi des hommes et des femmes d'action. Je veux voir les Jéricho tomber au travers de la louange, mais je veux voir les Haïs tomber au travers de mon combat, au travers des armes que tu m'as données, au travers des promesses que tu m'as données. Je prie dans le nom de Jésus que notre vie de prière ne soit pas juste spirituelle, mais qu'elle soit toujours accompagnée d'actes. Je déclare cette parole de l'épître de Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres sans la foi ne servent à rien, mais je déclare qu'un peuple qui passe, qui va chercher dans ta présence et qui discerne les œuvres, qui se met en mouvement sur ta parole, va voir les pêches miraculeuses être libérées dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Et est-ce qu'on peut juste acclamer la parole de Dieu et le Dieu qui marche avec toi? Dieu marche avec toi! Amen.